Bonjour et bienvenue pour ce nouveau culte à distance préenregistré. Merci de vous être connecté ce matin pour que nous le vivions ensemble. Bienvenue à vous qui nous découvrez peut-être pour la première fois. Que nous puissions nous sentir tous ensemble en communion avec notre Seigneur. Durant ce culte, nous aurons un moment de louange pour exprimer par les chants notre reconnaissance, notre adoration. Puis c'est Marc Ponce qui nous apportera la prédication qui sera suivie par les annonces concernant notre communauté. Ensuite, Marie-Christine nous conduira dans la prière d'intercession et enfin nous aurons une parole de bénédiction et d'encouragement aussi pour la semaine à venir. Je vous invite à chanter avec moi ce premier chant. Durant ce confinement, nous nous rappelons encore plus que d'habitude que l'Église n'est pas un lieu ou un bâtiment, mais que l'Église est l'ensemble des personnes qui la composent. Aussi ce matin, l'Église est chez vous, parce que vous êtes l'Église. C'est ainsi que nous pouvons vivre ce culte en communion les uns avec les autres. Ce temps particulier que nous vivons depuis 3 semaines me fait penser à l'attitude de l'apôtre Paul lorsqu'il était dans des situations similaires. Je vous invite à lire avec moi un extrait de sa lettre destinée aux Corinthiens. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment un Père plein de compassion, un Dieu qui sait consoler dans les situations les plus diverses. Il nous aide et nous encourage dans toutes nos difficultés et nos afflictions, afin que nous soyons nous-mêmes capables de consoler et d'affermir à notre tour tous ceux qui sont dans la peine, en partageant avec eux la consolation que Dieu nous a accordée. » À la lecture de ces versets, nous ressentons que l'apôtre Paul n'est pas dans une attitude de découragement ou d'affliction. Bien au contraire, il affirme que Dieu réconforte dans toutes les situations, quelles qu'elles soient. Il nous invite également à partager cette espérance avec les plus éprouvés d'entre nous. Lors de son confinement sévère, puisqu'il était en prison, avec Silas, son compagnon, ils iront jusqu'à chanter des cantiques en reconnaissance à Dieu. C'est ce même sentiment de joie intérieure exprimé par l'apôtre Paul que j'aimerais partager avec vous. Car comme nous l'avons lu, nous avons un Père plein de compassion. Je vous invite maintenant à un moment de recueillement. Seigneur, nous voulons te bénir de nous avoir révélé par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ que tu es un Dieu d'amour, un Dieu proche de nous, qui aime chacun de nous, un Dieu qui aime le monde autour de nous. Puisse ton Saint-Esprit chasser la crainte de nos cœurs, la peur qui nous envahit aussi facilement. Mets ta lumière sur notre chemin. Entends nos prières, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole que tu penches ton oreille vers nous. Éclaire-nous de ta présence, montre-nous ta face pour que nous puissions te louer et t'adorer en vérité. Renouvelle en nous la joie de t'appartenir, car près de toi est notre salut. Amen. Et je vous invite à chanter « C'est auprès de Dieu ».
C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son.
Je vous invite à écouter la prédication avec Marc Ponce.
Bonjour à tous. Les circonstances actuelles ne nous permettent pas d'être parmi vous ce matin, mais rassurez-vous, nous ne vous oublions pas pour autant. Vous restez dans nos mémoires et nos prières. Et bien sûr, je suis heureux de participer à votre culte ce matin, avec les moyens qui sont à notre disposition. Voici donc le texte qui fera l'objet de notre méditation. Il se trouve dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 46 à 52. Ils viennent à Jéricho. Il s'agit bien sûr de Jésus avec ses disciples. Et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus le Nazaréen et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie compassion de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Rabouni, lui dit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin. Ta foi t'a sauvé. Ici, comme dans d'autres récits du Nouveau Testament, le verbe « sauver » est employé dans le sens de « guérir ». Ceci dit, cette guérison représente plus qu'un simple recouvrement de la vue. La fin de l'histoire le montre bien. Elle montre bien la transformation de ce mendiant aveugle qui se joint aux disciples. Jésus rétablit la santé. Mais il y a ici quelque chose de plus important, et c'est sur ce plus important que je voudrais m'arrêter ce matin. Il est aveugle, ce qui veut dire qu'il ne peut pas se déplacer sans risquer de trébucher sur un obstacle, qu'il est obligé de demander de l'aide pour les actes les plus banals, qu'il est à la merci de toute personne mal intentionnée à son égard. Pour lui, comme pour tous les aveugles de son temps, la vie n'est pas facile. Pas de RSA, pas de pension d'invalidité. Il est obligé de mendier pour vivre, ce qui est une fragilité supplémentaire. Bien sûr, et c'est à noter, il est connu par son nom, chose importante dans la culture biblique. C'est le fils d'un certain Timée, sans doute quelqu'un de bien connu. Mais cette identité de fils d'eux ne lui sert à rien, puisque lorsqu'il se manifeste, personne ne l'écoute. Un mendiant n'a pas de part à la vie sociale. Il n'a qu'à se contenter des aumônes venant du surplus des biens portants et dire merci. Veut-il faire appel au Messie qui passe par là? On le décourage. La foule des bien portants, bien pensants le rabroue. Le verbe grec employé ici exprime l'hostilité. Le Messie a autre chose à faire que de s'occuper d'un mendiant qui perturbe le cortège pour aller sur Jérusalem. Ce n'est pas le moment. Tout contribue à le faire taire, à étouffer sa demande. Pourtant, il ne se laisse pas démonter et il crie encore plus fort. Sa volonté et sa confiance sont telles que lorsqu'on lui dit que Jésus l'appelle, rien d'autre ne compte. Il laisse là son manteau, sans doute la dernière chose qu'il possédait, sans doute sa dernière protection. Nous avons là tous les traits d'une foi remarquable. Mais lorsqu'il se trouve en présence du Messie, ce dernier l'invite à formuler sa requête d'une manière plus précise. Pourquoi? On ne peut pas imaginer qu'il puisse demander autre chose que de retrouver la vue. C'est tellement évident. Pourtant, ce que Jésus veut lui faire dire est très intéressant. En présence du fils de David, il ne va pas mendier quelques pièces comme il le faisait d'habitude. Bien sûr, me direz-vous, ce qui change tout, c'est la personne à qui il s'adresse. Il sait que Jésus a déjà guéri beaucoup de blancs. C'est tellement évident, me direz-vous. Pour lui, sans aucun doute. Mais à partir de là, je me demande si nous sommes aussi logiques que lui, si nous connaissons toujours nos vrais besoins. Après tout, il nous arrive bien de préférer prendre un cachet pour calmer un mal de tête, plutôt que d'observer le régime alimentaire qui pourrait procurer quelques répits à notre foi. Il est parfois des habitudes dont nous avons du mal à nous défaire, même si elles nous desservent. Elles peuvent nous paraître bien douces. Je vais donc rester sur cette question que Jésus pose. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il faut que nous nous la posions nous aussi. Qu'est-ce que nous attendons du Seigneur? Question importante dans les situations difficiles, quelles qu'elles soient. Cette question nous invite à chercher quels sont nos vrais besoins, et peut-être, comme dans le cas de Bartimée, les nommer en sa présence. Nous ne sommes pas aveugles, mais nous ne voyons pas forcément toujours les priorités ou les problèmes les plus vitaux. Un effort est parfois nécessaire pour trouver le vrai lieu de nos délivrances. Est-ce que nous attendons de Dieu qu'il nous donne un petit coup de main pour sortir d'un mauvais pas, sans que cela change nos habitudes, sans que nous ayons compris nos vraies faiblesses, nos vrais confinements? Jésus n'est-il là que pour nous donner seulement quelques pièces? La foi qui sauve ou qui guérit n'est pas celle qui accorde une facilité, un coup de pouce par-ci par-là. Elle met debout, elle reconstruit, elle réinsère dans la vie. Elle permet de nouveaux départs. Alors, pour résumer, j'évoquerai bien sûr la hardiesse, la persévérance de cet homme tellement vulnérable qui s'obstine contre vents et marées. Il ne lui reste plus que la voix. Et Jésus ajoute l'épreuve finale de celui qui, quoique aveugle, doit s'avancer vers lui sans son manteau. Il ne lui reste plus que les jambes. Eh bien, c'est encore suffisant. La foi nous déplace avec ce que nous avons. Mais je relèverai aussi la réponse à cette question que Jésus pose sur ce qu'il attend. Non pas recevoir un secours ponctuel, l'amélioration d'une vie misérable, mais une transformation, un secours utile et durable pour vivre et être remis debout. La foi nous appelle à être lucides, à ne pas nous contenter à seulement quelques pièces de monnaie. Elle ne s'arrête pas au bout de notre nez, elle ne s'arrête pas à nos aspirations du moment. Encore une chose, au début, Bartimée n'a pas eu l'occasion de faire une demande explicite. Ce n'est qu'après avoir insisté, après avoir cheminé en aveugle, en tâtonnant sans doute, et après avoir été interrogé, qu'il va pouvoir exprimer son besoin. On peut dire que Jésus aurait pu le guérir à distance, comme il l'avait déjà fait avec d'autres personnes, mais la foi est aussi quelque chose qui s'épanouit dans un cheminement, en tout cas pour Bartimée. Elle est suscitée d'abord par l'écoute d'une nouvelle. Bartimée a entendu parler du message de Jésus, le Nazaréen. Puis elle est conduite par les circonstances plus ou moins favorables. Mais elle est surtout accompagnée et affermie par le Seigneur lui-même, qui entend le faible, même en présence d'une grande foule qui marche. En fait, c'est le Seigneur qui l'a fait naître cette foi et qui l'a nourri. Où en sommes-nous de ce cheminement? C'est un cheminement qui peut nous conduire au-delà de ce que nous pouvons imaginer, mais qui est de nature à nous relever et nous rendre libres, capables de vivre vraiment. Est-ce bien ce que nous voulons? C'est à nous de répondre, sachant cependant que à chaque pas que nous voyons ou que nous ne voyons pas de quoi demain sera fait, nous ne voyons pas toujours, avec ou sans le manteau de nos assurances. À chaque pas, nous sommes assurés de la présence du Seigneur. La foi est un chemin où nous ne sommes pas tout seuls. C'est la bonne nouvelle. Alors bon courage à chacun.
Merci Marc pour ton message. Je laisse la place à Laurence pour les annonces.
Maintenant, un petit mot sur nos offrandes. Une offrande doit être préparée, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 16. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette de côté chez lui ce qu'il a économisé selon ses possibilités. Merci de vos généreuses participations pour ces journées d'offrande toujours ouvertes. Donnons comme nous avons résolu dans notre cœur, avec joie et par la grâce de Dieu. Les annonces sont limitées dans ces temps de confinement. Les cultes au Bougainvillée ne sont pas encore possibles, contrairement à ce que j'avais dit la semaine dernière. Mais vous pouvez toujours consulter le blog pour avoir des nouvelles. N'oubliez pas non plus l'opération chocolat sur le site de la SEPF. La date limite de commande du 15 décembre arrive vite. Les enfants à la montagne sont toujours dans nos cœurs et nos prières. Merci à tous ceux qui ont déjà participé à la cagnotte, ça fait chaud au cœur. Je rappelle aussi que les dons faits à l'association feront l'objet d'un reçu fiscal, au même titre que l'Église. Ils ouvrent droit à une réduction d'impôt de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. Merci à tous. Consultez aussi notre site internet pour rester connecté à notre vie d'église.
Marie-Christine va nous conduire à présent dans la prière d'intercession.
Chers frères et sœurs, prions ensemble. Pour ce monde et cette terre dont nous sommes citoyens, aide-nous Seigneur à être attentifs aux besoins de notre prochain et à nous impliquer dans des actions de sauvegarde. Nous te remettons les organisations humanitaires et les églises qui œuvrent en ce sens. Aide-nous, Seigneur, à être le sel de la terre et à mener à bien ce que tu nous confies. Apaise aussi nos cœurs face aux actes de violence dont nous sommes témoins. Nous pensons également à ceux qui parmi nous souffrent de solitude accentuée par cette période de confinement. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Remplis nos cœurs de ta présence, de ta paix et de ta joie. Nous en avons besoin. Que ce temps soit une occasion pour chacun de rechercher ta face et de cultiver l'amour en toutes circonstances. Amen.
Recevons à présent les paroles de bénédiction. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et je vous propose que nous chantions « Shalom, paix sur toi ».
Oui, quand tout le temps, à chaque instant.
Chers amis, prenez soin de vous et bonne semaine à tous.